Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Route 66, l'émission des musiques roots américaines qui existe depuis 1994 sur les ondes de RDL, le 103.5 FM, avec encore aujourd'hui un invité. Ça fait vraiment des années que je souhaitais l'avoir dans le studio. Mon vœu est enfin exaucé. C'est quelqu'un de très marquant dans l'histoire du jazz français, puisqu'il exerce sa passion depuis bien des décennies. Il aura l'occasion de nous en parler. Je veux bien entendu parler du légendaire vibraphoniste, Monsieur Michel Hausser. Michel, bienvenue dans l'émission.
Bonjour David, merci de m'avoir invité.
C'est un réel plaisir. Donc tout au long de cette heure, nous aurons l'occasion de parler du Festival de Jazz de Münster, puisque c'est un anniversaire, un chiffre rond cette année, puisque c'est la 20e édition du genre. Donc un festival qui perdure et qui s'inscrit comme l'un des plus importants dans le Grand Est français et qui même commence à faire parler de lui à l'international. Alors en guise d'introduction à cette émission, Michel, je tenais à passer un morceau de quelqu'un que vous avez peut-être très bien connu, je n'en doute pas. En tout cas, c'était un petit clin d'œil à quelqu'un que l'on connaît tous les deux. C'est l'un de vos grands amis. J'ai eu l'occasion de le rencontrer également à maintes reprises. C'est un programmateur, notamment le programmateur du Festival de Jazz de Vienne. Et c'est surtout celui qui a remis sur les rails, justement, dans la continuité du créateur du Jazz Club Lionel Hampton, ce fameux endroit porte-maillot à Paris. Jean-Pierre Vignola, donc on le salue. Malheureusement, il n'est pas là dans l'émission, mais je tenais absolument à lui faire ce petit clin d'œil.
Grand monsieur du jazz. Il a été le road manager de Benny Carter, de Basie pendant leur tournée européenne. Et je le connais très bien. Chaque année, j'ai le plaisir d'aller jouer une semaine au Méridien à Paris. Et puis, j'ai joué à Vienne au festival l'été dernier. Jean-Pierre, c'est un inconditionnel du jazz. Il a l'air un peu nounours, mais il connaît tout le monde et il manage ça d'une façon fantastique.
Absolument. Ouais. Et puis, il est également à l'origine d'un label de musique qui a fait beaucoup de bons disques de blues. C'est le label Black and Blue. Qui a fait énormément d'enregistrements. Donc, on va commencer
Pour commencer, ouais. Je vais vous inviter à venir nous voir à Münster au festival parce qu'il va venir pendant 3 jours.
Je compte bien le revoir à cette occasion.
C'est lui qui accompagne 3 orchestres qui viendront chez nous.
D'accord. Voilà. Il me dit que la dernière fois que je l'ai vu, il m'a encore dit qu'à chaque fois, il gardait un très très bon souvenir du Gewürztraminer.
Ah là 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 là.
Voilà, donc je tenais également à saluer celui qui est présent derrière la console. Ça me fait plaisir de le revoir. Hein. C'est Joël qui signe son retour sur RDL avec une émission tous les mercredis de 14 à 16 heures. Donc Joël, you're welcome.
Eh bien, merci à toi,
je
David.
Je ne sais pas comment il fait, Joël, mais je ne l'ai jamais connu autrement qu'avec le sourire. C'est un optimiste né. Hein.
Absolument. Comme dit une chanson, je me soigne au swing.
D'accord.
Et je tenais à ce que Joël fasse la technique aujourd'hui parce que c'est un grand amateur de jazz aussi. Et je sais que le fait de rencontrer une fois de plus Michel Hausser allait lui faire grand plaisir.
Tout à fait. Merci. C'est toujours un grand plaisir de le rencontrer, Michel. Et dans l'émission précédente, j'ai passé du vibraphone à son honneur.
Ah, merci Joël.
Alors, puisque le swing te donne le sourire, Joël, on va justement passer quelqu'un qui en a offert du sourire à tous les gens. C'était un grand amuseur, un excellent batteur de jazz et quelqu'un qui a été à l'origine des premiers clubs de jazz à Paris et qui avait notamment relancé l'activité au Jazz Club Lionel Hampton il y a bien longtemps. C'est bien sûr le grand Moustache qui nous a malheureusement quitté en 1987. Mm-hmm. Vous l'avez connu, Michel ?
Oui, ouais, bien sûr. J'ai passé 20 ans à Paris, de 50 à 60.
Donc vous avez fréquenté les mêmes clubs.
Alors nous étions d'un côté de la Seine et de l'autre côté, il y avait les clubs Nouvelle-Orléans. Enfin non, lui était du même côté que nous, au Vieux-Colombier avec Claude Luther. Ouais. Oui, parce qu'il y avait aussi des clubs rue de Rivoli, mais nous les regardions un petit peu d'un œil un peu distant parce qu'on disait qu'ils sont de l'autre côté du Mississippi, c'est-à-dire qu'ils jouaient une autre musique. Nous jouions le bebop et eux jouaient du Nouvelle-Orléans.
Tout à fait, et Brassens l'appelait le gras du bide.
Et entre parenthèses, je vous recommande, si vous arrivez à le trouver, parce que c'est complètement épuisé, mais Moustache avait sorti ses mémoires quelques années avant sa disparition, qui s'appelle Tambour battant. Et c'est vraiment des mémoires que je vous recommande, car c'est à mourir de rire. Et c'est plein d'anecdotes.
J'ai eu le plaisir de le lire. Ah oui.
Il est introuvable, le livre, mais je me ferai un plaisir de vous le prêter, Michel.
Ah bon, très bien.
Donc on écoute.
Je le lirai, mais après le festival.
Allez, on commence avec Moustache. C'est un extrait d'un 25 cm Barclay qui était paru en 1958 et qui s'appelait tout simplement Moustache et ses moustachus. Et le titre d'ouverture de ce disque était tout simplement un petit clin d'œil et ça s'appelait C'est ça le blues. Moustache va donc vous donner sa vision du blues. C'est parti, Joël.
Thank you.
avait voulu se buter parce que sa femme l'avait quitté pour suivre un Miranto qui était pourri de pognon. Il connaît pas le blues. Il connaît pas le blues. Scoula m'est arrivé pas plus tard que l'été dernier. Je rentrais d'un concert de jazz. Je vois un mot posé sur le gaz. C'était signé Lulu. Salut, j'aime pas reine de cocu. Et j'ai connu le blues. Et j'ai connu le blues. Ça fait 6 mois hier qu'elle s'est embarquée pour Citerre. J'ai pleuré, oh oui j'ai pleuré. Y'en a qui appelleraient ça hurler. Pleuré jusqu'au matin. J'ai même réveillé les voisins. Oh oui c'est ça le blues. Oh oui, c'est ça le blues. C'est un truc, mes amis, que je souhaite pas à mon pire ennemi. Pour éviter la catastrophe, il faut être un bon philosophe. Dire ça n'est qu'une pocheté, une de perdue, 10 de trouvée. Alors y'a plus de blues. Alors y'a plus de blues. Celui-là est terminé. Et je n'ai plus de raison de chanter. Salut les copains, à demain.
Et salut à Moustache surtout, on pense à lui.
Oui, bien sûr. Et j'ai cru, je pense avoir entendu dans l'orchestre qui fait le background, mon vieux collègue vibraphoniste, hélas disparu aussi, Géodali. Mmh. Un excellent vibraphoniste.
Et c'est vrai que j'avais essayé de chercher le personnel de cet album avant de venir à l'émission. Malheureusement, il n'y a aucune indication sur la jaquette, puisque j'avais entendu le vibraphone, c'est pour ça que j'ai choisi de passer ce morceau et je m'étais dit... C'est forcément quelqu'un que Michel connaît. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur le 103.5 à l'écoute de RDL et plus précisément de l'émission Route 66, une émission que vous pouvez également retrouver sur Internet grâce à notre site sur laroute66.free.fr où il y a plus de 260 interviews d'artistes de transcrites, des nombreux reportages, des centaines de photos. Donc je vous invite à aller y faire un saut, d'autant plus qu'il y aura bientôt un reportage sur la venue de Michel dans l'émission. Alors Michel, avant de parler plus spécifiquement du festival, j'aimerais quand même essayer de vous faire connaître à nos auditeurs et vous présenter, faire un petit cursus comme ça depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors dans un premier temps, je voulais simplement savoir quelle avait été votre éducation musicale, puisque c'est vrai que vous êtes réputé comme un très très grand jazzman. Cependant, est-ce que lorsque vous êtes né, ça remonte quand même à quelques temps maintenant, le jazz n'était peut-être pas forcément tellement dans les mœurs en Alsace. Donc quelle a été votre première approche de la musique? Ça a été par l'accordéon, je crois?
Non, par le piano. Le piano, mon père, qui était instituteur, jouait du piano. J'ai travaillé le piano tout jeune avec lui, ensuite avec des professeurs. Et à l'âge de 14 ans, j'ai eu mon premier accordéon. J'ai joué de l'accordéon. J'ai été, après la guerre, professeur d'accordéon. J'ai fait mes études troisiennes en Allemagne. Et j'ai été professeur d'accordéon à l'Académie d'accordéon Oscar Diebold à Strasbourg avec Mario Hirlé, l'accompagnateur de Germain Müller. Et c'était une grande école à l'époque. Nous avions 360 élèves, nous étions 5 professeurs. Et parallèlement, j'ai monté mon premier orchestre, donc après la guerre, en 1946-7. Et j'ai joué donc à Strasbourg, à l'Aubette, à la Maison Rouge, là où il y a la FNAC aujourd'hui. C'était un hôtel de grand prestige à l'époque où Churchill y descendait pendant le Conseil de l'Europe. Et un jour, m'estimant trop jeune, à 20-22 ans, pour ne faire qu'enseigner la musique des jeunes. J'ai monté donc mon orchestre et je suis parti en tournée définitivement. Voilà, et j'ai voyagé en France, en Afrique du Nord, un peu partout, et je me suis trouvé en 51, en 50, attendez, pardon, en, oui, 49-50, à Bordeaux, et j'ai été approché par l'armée américaine pour travailler pour eux, pour jouer dans tous les clubs d'officiers américains. Il y avait les headquarters là-bas, et puis tous les clubs partout en Europe. Et à partir de ce moment, donc, j'ai fréquenté le jazz, je jouais du swing à l'accordéon, mais c'est à l'époque, tout le monde était, comment dirais-je, friand de jazz, mais on jouait aussi la danse encore à l'époque. On jouait du bandoneon, on jouait les tangos au bandoneon, la musique à l'accordéon, et puis le jazz, donc le swing à l'accordéon. Et j'ai eu mon premier vibraphone en 1948, voilà. En 48, et en 50, j'ai tout laissé tomber pour aller à Paris. Pour m'installer à Paris, j'ai eu la chance de connaître Django Reinhardt en 1952, juste avant sa mort en 53. Et à sa mort, j'ai donc joué avec Stéphane Grappelli. J'ai fait donc mes débuts à Paris. Ensuite, j'ai eu l'occasion de monter le club du Chat qui pêche, lancer le Chat qui pêche, qui est un des meilleurs, qui était devenu un des meilleurs clubs de la capitale. Et j'y suis resté pas mal de temps, tout en partant en tournée avec des musiciens américains. Et puis de là-bas, à Paris, bon, j'ai passé donc 20 années à Paris, en ayant là-bas mon pied à terre, mais en partant régulièrement en tournée avec des musiciens américains, dont par exemple Quincy Jones, le grand orchestre de Quincy Jones, dont j'ai fait partie pendant 2 ans, avec Sarah Vaughan, et puis voilà. Et un jour, je me suis rendu compte que pour aller jouer à Bâle ou à Amsterdam ou à Stuttgart, il n'était plus nécessaire ou indispensable de venir de Paris. Autrefois, on venait de Paris et on était quelqu'un, ou on ne venait pas de Paris et on n'était rien. C'était ça à l'époque, quoi. C'est pour ça que tous les chemins passaient par Paris. Et un jour, dans les années 70, ça s'est estompé. Il y a eu les maisons de la culture qui ont été ouvertes en province, et la plupart des musiciens sont rentrés dans leur province. Et vous savez, à Paris, vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez sur la table. Jamais vous n'ouvrirez les volets en voyant des sapins. Et moi, chez moi à Münster, j'ouvre les volets et je vois des sapins. Il y a ma rivière à truites qui n'est pas loin, je peux aller pêcher à la mouche. Et quand le jazz m'en laisse le temps, ce qui n'est pas le cas en ce moment pour le festival, mais enfin ça viendra. Voilà, c'est un petit aperçu de mon ridiculum vitae, comme disait Martial Solal, voilà.
En tout cas, pour un petit aperçu, c'est impressionnant. Hein. Et puis c'est vrai que j'avais, comme ça, il a répondu quasiment à 6 questions, là, Michel, que je voulais lui poser.
Ah bon, donc c'est formidable. On va
aller prendre un verre, c'est terminé.
Il est intarissable.
Par contre, est-ce que vous pourriez revenir justement sur l'ambiance des clubs parisiens de cette fin des années 40, puisque vous disiez vous-même tout à l'heure, quand on parlait de moustache, qu'il y avait quand même une certaine rivalité.
Ah oui, ben, c'est-à-dire que... Oui, mais c'était de bonne guerre. À l'époque, il y avait donc le jazz Nouvelle-Orléans qui était cornaqué par... Allons.
Claude Luther ?
Non, le fameux pape du jazz Nouvelle-Orléans de Montauban.
Ça m'échappe également.
Aïe.
Oh, mais on va passer.
Voilà, on trouvera. Et alors, à l'époque, donc, pour eux, c'était l'autre club de France, il n'y avait que le jazz Nouvelle-Orléans, swing jusqu'à Count Basie, et après, le jazz s'arrêtait. Mais ensuite est arrivé Boris Vian et Delaunay, et eux, alors, optaient déjà pour Charlie Parker, Dizzy Gillespie, pour le nouveau jazz, pour le bebop. Et alors, les anciens nous appelaient des raisins aigres, et nous les appelions les figues moisies. Alors il y avait à l'époque la fameuse guerre, ça a duré longtemps, quoi. On était capable de prendre un verre ensemble, mais enfin, on faisait partie d'un autre bord, tout en étant conscient de jouer du jazz. Et tout ça, ça s'est estompé à la longue, et maintenant quand on se voit, on se rencontre avec les anciens, Sori, La Ferrière et tout, on en rigole de ça, quoi. Mais à l'époque, il y avait deux clans, le jazz bebop, dont j'ai fait partie, et puis le jazz traditionnel, disons, voilà.
Mais c'est encore d'actualité, hein, parce que le Hot Club, moi j'étais président de Hot Club de France, et crois-moi que le président de l'époque... il était très à cheval encore sur le swing, le New Orleans et le boogie et le ragtime.
Ah oui, mais il disait qu'après Basie, c'était terminé. Ah, le c'était jazz terminé, était terminé. Oui. Donc c'est idiot parce que le jazz est un art et le jazz évolue toujours, quoi. Lentement, comme le dit Sly Hampton, le jazz avance tout lentement, mais il avance. Voilà.
Alors avant de marquer une nouvelle pause musicale, je voulais quand même parler d'une rencontre frappante, puisque vous êtes vibraphoniste, vous avez eu l'occasion de rencontrer en 1954 Monsieur Milt Jackson, qui est quand même le pape de cette discipline. Donc comment s'est faite la rencontre ?
J'ai rencontré Milt Jackson, ça s'est fait d'une façon très bizarre. J'habitais l'hôtel du Grand Balcon, au quartier latin, rue Dauphine, où n'habitaient que des musiciens de jazz connus. J'ai du reste mis au moins, après mon arrivée à Paris, plus d'un an pour avoir droit à une chambre là-bas. La première fois que je suis venu demander une chambre, on m'a dit, on a sonné aux anciens pour les appeler. Vous connaissez monsieur ? Non. Alors évidemment, je venais d'arriver. Eh bien monsieur, vous ne pouvez pas avoir de chambre chez nous. Alors je suis allé en face à la Louisiane. C'était pas triste non plus. Il y avait à l'époque des musiciens comme Bud Powell et tout qui habitaient. Mais enfin, un jour, j'ai donc pu, après mon premier disque, j'ai pu rentrer au Grand Balcon et j'y suis resté pendant 6, 7, 8 ans. Il y avait là-bas les musiciens fantastiques, il y avait Sadie l'Allemand, il y avait Kenny Clarke qui était mon voisin de chambre, le plus grand batteur bebop qu'on ait jamais connu. Il y avait Bill Coleman, il y avait Albert Nicolas, il y avait des grands musiciens qui habitaient là. Et c'était fantastique. Un soir, on me réveille, on me dit, écoute, descends vite. Je veux te présenter quelqu'un. C'était Nat Peck, le trombone. Je descends, je vois un gars en manteau cuir gris, comme les motards, avec un béret enfoncé sur la tête. Et il me dit, voilà, Milt Jackson. Ah, j'ai cru que j'allais tomber. Milt Jackson, c'était mon idole. J'écoutais ses disques, Anthropologie et autres, depuis 1949, quoi. Et nous sommes devenus amis, et j'ai ensuite eu la chance de jouer avec eux en 58 au Festival de Cannes, au Palais des Festivals de Cannes, avec le Modern Jazz Quartet et le Jazz Group de Paris, avec deux vibraphones, deux basses, deux batteurs, deux bassistes, et puis des souffleurs derrière un disque que nous avons fait pour... je ne sais plus quelle marque aux États-Unis, c'était John Lewis qui dirigeait cela. Et nous sommes restés amis pendant 40 ans. Et si à l'époque, on m'avait dit qu'un jour, j'arriverais à le faire venir à Münster, j'aurais pensé que c'était le plus gros gag de qui pouvait m'arriver. Mais ça, c'est arrivé, vous voyez. C'est arrivé, 40 ans plus tard, il est venu à Münster. Il a fait un de ses, malheureusement, derniers concerts. Il est mort peu de temps après. Et c'était pour moi, c'était fantastique, parce que pour moi, c'est non seulement le plus grand vibraphoniste, c'est un des plus grands musiciens que le jazz ait connu.
Ben, je vous propose justement d'écouter un morceau avec le vibraphone de Monsieur Michel Auxerre. Ça s'appelle New Boogie. C'est extrait d'un album avec son trio. L'album s'appelle Blue Rose, New Boogie, Michel Auxerre. Thank you. Et ça s'appelle New Boogie, Michel Auxerre, qui est toujours avec nous dans le studio pour notre plus grand plaisir. Ah, il voulait rajouter quelque chose par rapport à ce morceau, non ?
Non, je voulais dire que c'est un disque que j'ai fait avec mes collègues du trio, donc un trio que j'ai depuis 20 ans, qui a fait son 20e anniversaire cette année, avec Bernard Ertrich à la guitare et Werner Brum à la contrebasse.
C'est important de le souligner, c'est vrai. Alors, on va sauter quelques petites étapes de votre vie, parce que c'est vrai que l'émission n'y suffira pas malheureusement, il faudrait qu'elle dure toute la nuit, mais peut-être une prochaine fois, pourquoi pas. Il y a quand même autre chose qui est important dans votre existence, dans votre carrière. Vous avez toujours été très actif, pas forcément en tant que musicien, mais par exemple en 1967, vous vous êtes impliqué dans la branche syndicale des musiciens de jazz et de variété française en tant que président. Oui. Donc ça aussi, c'est une autre facette de vos multiples talents.
Oui, c'est une chose que nous avons estimé nécessaire parce que à l'époque, il y avait donc les fameuses grèves et puis mai 68 aussi. Mmh. Bon, nous avons à l'époque participé à tout cela, non pas pour faire plaisir aux étudiants, mais parce que notre propre métier nécessitait plus qu'un toilettage, quoi. Aussi vis-à-vis des producteurs et tout, pour clarifier la situation, les tarifs pour les enregistrements et tout ça. Il y a eu beaucoup d'abus qui, après cette date, après cette période, se sont arrangés, ont été amenuisés, voilà. Mmh.
Et puis toujours cet amour de l'enseignement, semble-t-il, hein, puisque vous avez également créé une académie d'accordéon.
Oui, lorsque je suis revenu en 70, j'ai voulu monter, j'ai appelé ça tout d'abord Institut musical, en pensant pouvoir enseigner le vibraphone, le piano jazz et beaucoup d'autres disciplines. Et finalement, j'ai été submergé par l'accordéon, par... Mon ancien métier, quoi, que j'ai repris avec plaisir. J'avais une grande école d'accordéon dans tout le Haut-Rhin. Et pendant au moins une vingtaine d'années, parallèlement, j'ai évidemment continué de jouer du jazz. Parce que je pensais rentrer en Alsace et monter aussi un grand orchestre pour la radio et tout. Je ne me suis pas rendu compte que les conditions n'étaient pas les mêmes qu'à Paris. D'abord, les conditions de travail, trouver du travail, que la radio n'avait pas un orchestre attitré. En Allemagne, par exemple, toutes les grandes villes avaient leur Rundfunk Orchestre, l'orchestre de la radio, mais ça n'était pas le cas à Strasbourg, quoi. Et alors, j'ai joué parallèlement du jazz. Et finalement, je me suis rendu compte, lorsque le festival a débuté, que je pouvais prendre ma retraite en tant qu'enseignant. Je me suis arrêté et j'ai recommencé à jouer donc du jazz à temps plein, quoi. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai joué pendant 20 ans à Paris. Je n'y ai plus joué pendant 20 ans. Et quand en 89, les Arvanitas, Lafitte et autres sont arrivés pour le festival, ils ont dit « Mais c'est pas vrai, tu joues toujours comme autrefois, tape là-dedans, on te fait venir à Paris. » Alors le vin blanc aidant, moi j'ai tapé là-dedans et 3 mois après ou 2 mois après, je me suis trouvé au Bilboquet, à l'ancien club Saint-Germain, comme avant. Alors pour rire, j'ai dit « J'ai joué 20 ans à Paris, je n'y ai plus joué pendant 20 ans et je vais y venir régulièrement pendant 20 ans. » Eh bien, écoutez, c'était en 89, encore 2 ans,
presque.
Puis ce sera vrai. J'estime que c'est une grâce, disons les choses comme elles sont, une grâce que m'a accordé le bon Dieu de pouvoir encore être sur pied et de jouer, voilà. Il faut en être reconnaissant, ça ne durera pas toujours, mais enfin, aussi longtemps qu'on peut, il faut le faire le mieux possible, voilà.
Mais le jazz conserve.
Pardon ?
Le jazz conserve.
Ah oui, d'accord, oui.
Et je tenais également à dire que Michel est un compositeur prolifique, hein, plus de 200 œuvres sont déposées à la SACEM, je crois, dont quelques musiques de films.
Oui, bien à l'époque j'écrivais des musiques à Paris, musiques de films et autres, et puis musiques de grand orchestre aussi, et j'ai pratiquement jamais arrêté d'écrire et de composer de la musique, ce qui est intéressant pour mon ensemble, mon trio aussi, parce qu'on ne peut pas... Avec mon trio, par exemple, nous répétons chaque semaine depuis 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, on ne peut pas toujours jouer le même répertoire. Il faut toujours avoir un répertoire qui se renouvelle. Et c'est pour ça que j'écris toujours, continue d'écrire de la musique. Voilà.
Ok. Alors, nous allons tout de suite rentrer de plein pied dans le festival de jazz de Münster qui, je vous le rappelle, aura lieu du 13 au 19 mai prochain avec un morceau de celui qui ouvrira le bal, justement, ce sera le mardi 13 mai à la salle des fêtes. C'est monsieur František Ulyra.
Oui, mais d'abord, hein, y a un préalable. Exceptionnellement, comme il s'agira de notre 20e anniversaire, nous offrons un concert le dimanche qui précède.
D'accord.
Il y aura le dimanche 13, sur la place des salles des fêtes. Non, pardon. Sur la place du marché à Münster, il y aura sous chapiteau trois orchestres. Il y aura les Célestins qui ont participé à notre premier festival et puis qui viennent avec le même entrain jouer pour le 20e. C'est beau aussi, ça. Il y a Hot Dog. Hot Dog, c'est pas avec un G, avec un C, ils sont d'Occitans, voilà, ce sont des Occitans, voilà, plutôt. Et il y aura le Big Band de New Combo. New Combo Big Band, donc une fête sur la place du marché pour la population, une entrée gratuite de 16h à 19h, voilà. Et ensuite, le lundi, ce sera pause.
Le temps de tout mettre en
mieux
place.
Mieux sauter le mardi, et puis nous commençons, comme vous dites, le mardi, voilà.
Voilà, par František Ulyr, que l'on retrouve immédiatement avec un extrait de son dernier album, et le titre qu'on va se passer, juste un court extrait, hein, parce qu'il est vraiment très long, il dure plus de 9 minutes, le morceau est Fly Time. C'est parti. Voilà, de retour dans le studio en compagnie de Michel Auxerre et nous allons commencer à éplucher plus spécifiquement cette programmation du 20e festival de jazz de Münster. Et Michel voulait mettre un point d'honneur à parler du trio que l'on vient d'entendre.
Oui, František Ulyr est un contrebassiste remarquable. Il nous vient de Prague. J'ai eu le plaisir de faire un concert avec lui en Suisse il y a quelques temps. Un bassiste comme vraiment, on en entend peu, d'une volubilité fantastique. Et d'un guitariste qui emploie une nouvelle technique de très originale du jeu de guitare, le two-hand tapping. C'est-à-dire, il n'attaque pas les cordes avec un médiator, mais il frappe les cordes comme un piano.
Petite question, est-ce qu'il ne s'est pas inspiré des Japonais avec qui jouent du shamisen? Parce que le shamisen, ça se tape, les cordes ne sont pas pincées.
Ah bon?
Mais c'est une question.
Ah, mais Joël, vous en savez des choses. Non, je ne sais pas, probablement. Mais de toute façon, je sais qu'il est un des seuls à pratiquer cette façon de jouer en Europe Et il y a encore un grand virtuose qui le fait aux États-Unis. Voilà, donc un trio qui nous vient de Prague et qui sera vraiment très agréable à écouter.
Et donc ce sera le mardi 13 mai à 21h à la salle des fêtes.
Mardi 15 mai.
15 mai, autant
mardi
pour moi.
15
autant
mai,
pour
mardi
moi,
15 mai.
Exactement.
Voilà.
Le 13, c'est vrai que c'est la date d'ouverture du festival et ce sera le dimanche sur la place
voilà.
du marché.
Voilà.
À la même affiche, il y aura Malcolm Potter, un
Malcolm
sextet.
Malcolm Potter qui est un franco-british, un chanteur bassiste franco-british qui chante vraiment avec une voix de crooner, avec un excellent orchestre. Ce sont des musiciens de la région de Grenoble et qui vont nous interpréter, là si vous le voulez bien, Bye Bye Blackbird.
Ok, on se passe le morceau.
Back up on my caring wall, here I go, singing low. Bye-bye, blackbird. Where's somebody who waits for me? Sugar sweet, so is she. Bye-bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they'll hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye-bye, bye-bye, Blackbird.
C'est Malcolm Potter qui nous emmènera jusqu'à la nuit du mercredi 16 mai, date à laquelle une large place sera faite à une chanteuse de talent, une chanteuse de rhythm and blues, Mandy Gaines, qui sera pour cette occasion toujours à la salle des fêtes accompagnée par un trio, celui de Philippe Duchemin.
Philippe Duchemin qui est venu avec son trio à Münster il y a 2 ans et qui nous a laissé un très très beau souvenir. Dont nous avons gardé un très beau souvenir et qui me téléphone en me disant écoute, voilà, j'accompagne probablement l'année prochaine, c'était en automne, Mandy Gaines, grande chanteuse noire qui vient en Europe. Alors voilà, nous faisons coup double, nous avons Mandy Gaines, formidable chanteuse noire, et en même temps l'excellent Philippe Duchemin trio.
On s'en passe peut-être une petite tranche.
Voilà, une petite
Allez,
tranche
un
de
petit
Mandy
peu de musique.
Gaines, voilà.
Mandy Gaines, qui se produira le mercredi 16 mai à 21h à la salle des fêtes de Münster, et à la même affiche, signalons quand même la présence du quintet de Randy Brecker.
Voilà, Randy Brecker, grande vedette. Randy Brecker qui avait formé il y a quelques années le fameux Brecker Brothers Orchestra, les frères Brecker, c'est-à-dire Randy à la trompette et son frère Michael au ténor, et Michael est décédé malheureusement il y a quelques temps. Alors c'est vraiment une grande vedette, un des plus grands trompettistes actuels. Nous aurons le plaisir de l'avoir à Münster. Il aura avec lui la saxophoniste Ada Robati, qui est du reste son épouse, saxophoniste ténor, très charmante et qui joue très bien. Dado Moroni, un vieil ami à moi, grand pianiste italien, qui passe son temps entre New York et l'Italie. Reggie Johnson, bassiste, qui vit actuellement en Suisse et accompagne toutes les grandes vedettes américaines venant à Paris, venant en France, pardon. Et puis un nouveau venu parmi les grands batteurs, Richie Bache, ex-drummer de Herbie Hancock. Alors là, ce sera vraiment un must pour les connaisseurs.
Vraiment du haut vol musical. Hein. Et tout ça pour nous amener à la journée du jeudi. Alors là, ça va être encore une très très belle journée puisque c'est très très dense.
Le jeudi de l'Ascension est une journée que nous consacrons régulièrement à ce qu'on appelle going back to the roots, retour aux racines, aux sources du jazz. Et cette journée commence toujours par un concert à 17h à l'église protestante, un concert de gospel à l'église protestante de Münster, avec John Bell, dont peut-être les auditeurs se rappellent, elle est venue avec les Ladies of Blues il y a quelques années. Donc c'est très curieux parce que ces chanteuses de gospel ou de blues sont toujours d'anciennes chanteuses gospel qui ont grandi ou dans l'église paternelle ou dans le chœur dirigé par leur père révérend, etc., etc. Et ce sont donc des filles qui chantent à la fois le gospel avec ferveur, mais aussi le blues, le vrai blues. Et bon, alors évidemment, ce sont des artistes noirs, parce que j'estime toujours que qui pourrait mieux parler des problèmes et du peuple noir que des artistes noirs. Voilà. Alors il y aura John Bell, le Gospel Quartet, avec le révérend Lee Brown à l'orgue. Et puis, deux autres chanteuses noires aussi, Mary Thompson et Queen Yana. Donc, concert à 17h à l'église protestante. C'est un concert qui est gratuit. On ne paye que la location de la place, quelques euros. Mais, de toute façon, n'essayez plus d'avoir une place au bout de deux jour ou trois jours, il n'y a plus aucune place. C'est
toujours une grande ferveur pour les concerts de gospel.
Ah oui, oui, parce que l'église peut contenir quelques 500 personnes et il nous est interdit d'en accueillir plus. Mm-hmm. Donc les billets s'arrachent en moins de deux jours.
Quoi. Et c'est vrai que sur son côté sacré, c'est une musique extrêmement vivante et c'est toujours des spectacles qui non seulement sont musicaux mais auditifs,
voilà,
mais surtout visuels.
Qui ne touche pas seulement les amateurs
absolument
de jazz, qui touche tous les gens qui ont une grande sensibilité musicale. Ensuite, à la salle des fêtes, le soir, à 21h, il y a un orchestre new. Vous voyez, on y revient toujours, quoi. Les Flatfoot Stompers. Flatfoot Stompers, c'est un orchestre qui nous vient du pays Swabe, en Allemagne. Des musiciens qui passent une moitié de l'année aux États-Unis, une moitié de l'année en Forêt-Noire, et qui